Sans réserve, le balado.
J'ai toujours gardé la passion pour les sciences sociales, pour les outils que ces sciences nous donnent pour la compréhension de l'histoire. Je me suis lancé dans l'histoire des Autochtones dans les dépôts d'archives à Paris. Il faut faire tous les efforts possibles pour faire l'histoire des sans-voix, c'est-à-dire l'histoire de ceux qui n'ont pas laissé beaucoup de traces. On a fait des efforts. Maintenant, on reconnaît que notre histoire ne commence pas avec l'arrivée des Européens, mais commence avec l'arrivée des humains.
Que diriez-vous d'aller à la rencontre de Denis Delage?
Nous avons collectivement une dette à l'égard des Premières Nations. Il faut rendre compte et il faut la rembourser. J'ai étudié au ce qui était à l'époque le Collège Sainte-Croix, qui est le cégep Maisonneuve. Je suis de l'est de Montréal, je suis originaire de Tétrouville. Et on a eu un professeur d'histoire qui était extraordinaire, qui nous faisait l'histoire du Québec et du Canada, mais dans une perspective également de sciences sociales, où plutôt que de dérouler des événements, il nous expliquait le contexte, les rapports périaux et coloniaux, les rapports entre les classes sociales, les rapports entre la ville et la campagne. Et puis, ultérieurement, je suis allé étudier en histoire, fortement influencé par ce prof qui s'appelait Jean-Paul Bernard, malheureusement décédé. Et pour ce qui est de l'histoire du Québec et du Canada, je trouvais que c'était dans une perspective d'histoire qui était trop étroite, absolument traditionnelle, et qu'il fallait acquérir une compréhension de la société. Donc, il fallait que je passe par les sciences sociales. Je suis allé en sociologie, où j'ai pu faire une thèse d'histoire et de sciences sociales. Évidemment, je m'intéressais de loin aux questions autochtones. Mes parents avaient spontanément une attitude favorable aux Autochtones, en disant qu'ils étaient méprisés, puis qu'ils avaient été malmenés au cours de l'histoire. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. J'ai eu le bonheur et le privilège d'avoir une bourse pour aller étudier à Paris, à l'École des hautes études, qui est une école qui pratique les sciences sociales en histoire. Je travaillais en histoire comparée de la Nouvelle-France et de la colonie de New York, qui était à l'origine était néerlandaise. Et je travaillais aux archives. Et puis, dans les documents de notre histoire, dans la correspondance des missionnaires, dans la correspondance des hauts fonctionnaires, dans la correspondance des militaires qui sont dans les postes, dans les Grands Lacs, et qui rapportent plein d'informations à propos d'Autochtones. Donc, c'est à Paris que je découvre le rôle central des Autochtones, la passion des observateurs pour la distinction, pour la différence, l'observation enthousiaste des missionnaires qui, évidemment, dénoncent le paganisme, mais en même temps sont très admiratifs des règles d'entraide. D'autres auteurs qui parlent de la manière d'élever les enfants, d'autres auteurs qui parlent de la manière de faire la guerre, et des descriptions des mœurs et des coutumes des communautés depuis les Innus jusqu'aux Sioux dans les prairies ou jusqu'en Louisiane. À partir de ce moment-là, je me dis, il faut absolument que je mette en valeur ce matériel. Je finis mon stage à Paris, je reviens, je me mets sur mon doctorat et je me dis, j'ai travaillé en histoire coloniale comparée, mais il faut que je commence avec une grande introduction pour dire qui étaient les Autochtones et quel était le type d'interaction. Puis dans cette longue introduction, j'ai finalement fait un livre.
Je suis embauché pour enseigner à l'Université Laval les méthodes de recherche et je propose une fois embauché d'offrir l'histoire des Autochtones. Et là, les départements d'histoire, d'anthropologie, de droit sont intéressés. Ensuite, il y a un peu d'étudiants autochtones qui sont à l'université dans divers domaines, en pharmacie ou ailleurs, qui viennent. Et donc, j'ai pu, à partir d'un département de sociologie, enseigner l'histoire des Autochtones à des étudiants, y compris d'histoire.
Dans les manuels scolaires, il y a quand même eu un effort important pour rompre avec le discours totalement négatif d'avant les années 70. Mais ce qui est clairement ignoré maintenant, c'est le 19e siècle, c'est-à-dire l'enfermement dans les réserves, qui est une période très noire. Et évidemment, le 20e siècle, là, il peut représenter. Auparavant, ils n'existaient pas. Maintenant, ils existent en gros jusqu'à la conquête. Mais à partir du 19e siècle, là, très peu. Et on a tendance à les rendre authentiques que s'ils sont inscrits dans leur tradition. Je dirais, pour caricaturer, un peu comme si un Québécois authentique et contemporain était catholique avec 12 enfants, comme si les Autochtones ne pouvaient pas s'approprier la modernité à leur manière. Ça n'a pas de bon sens. C'est gênant de dire que quand on fait l'histoire du Québec, on fait l'histoire de la croissance démographique d'une population. Les colons arrivent quelques centaines, même pas quelques milliers, et ils ont une croissance démographique rapide, et on parle du peuplement de la vallée du Saint-Laurent. Mais parler du peuplement de la vallée du Saint-Laurent, c'est dire aussi qui était ici et comment et pourquoi cette population a connu une décroissance épouvantable. La vallée du Saint-Laurent au 17e siècle ne se peuple pas, elle se dépeuple. Et ça, il faut être capable de faire l'histoire de tout le monde. Les épidémies qui sont pas liées, il faut les expliquer. Les épidémies sont pas liées à la méchanceté des Européens. Il y a des cas exceptionnels, mais pour l'essentiel, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Mais il faut quand même dire ce qui s'est passé. Puis il faut dire qu'il y a un choc microbien, puis que face à ce choc microbien, les Autochtones n'ont pas d'anticorps et meurent comme des mouches. Les descriptions des épidémies et de la mortalité sont terrifiantes à lire encore maintenant. Il faut dire que c'est arrivé. Parce qu'il faut rendre compte du malheur que ça a été pour les Autochtones de l'arrivée des Européens. Les pêcheurs basques ou espagnols ou français ou anglais sont en contact avec les Micmacs. Et dans des rapports généralement amicaux, les Micmacs commercent, montent sur les bateaux, troquent des choses. Et puis, les Micmacs disent qu'ils habitaient toutes ces côtes. Qu'au fur et à mesure de cette emprise et fréquentation, c'est-à-dire du commerce avec les pêcheurs et les baleiniers, ces peuples, ces populations sont disparues. Ils étaient le long de toutes ces côtes des provinces maritimes, aussi nombreux que les cheveux sur une tête. Et maintenant, il n'y en a presque plus. Il faut le dire. C'est des sociétés défaites. C'est difficile de partir après des siècles de violence. Arracher les enfants, comme on le fait depuis le 19e siècle, puis assez systématiquement à partir de 1956, vider les villages des enfants, partir avec eux, c'est effrayant. Le refoulement et la ségrégation ont eu des effets destructeurs sur ces communautés-là, et souvent, elles repartent de loin.
C'est un scandale aussi parce que ces gens pour qui la règle du sang n'avait pas d'importance. Ces gens-là se définissaient par l'adoption. On adoptait les enfants, peu importe d'où ils venaient, peu importe le père, peu importe les règles occidentales du mariage. On s'échangeait les enfants entre les familles. Donc, que ces gens qui se sont jamais définis par le sang soient désormais définis par le sang, c'est-à-dire qu'on puisse perdre son statut si on se marie avec des non-indiens et on peut se retrouver dans une situation où ses petits-enfants, à cause des règles fédérales du mariage, ne sont plus légalement des Indiens.
Nous avons collectivement une dette à l'égard des Premières Nations. Il faut la rembourser. Il ne faut pas la rembourser en leur donner des choses sans leur donner les moyens d'être autonomes et de se réaliser. C'est-à-dire, il ne faut pas les entretenir, qu'ils aient l'espace territorial et politique pour exister. On a une dette collectivement. Le pays leur appartenait au complet. Maintenant, ils sont enfermés dans des réserves, ils ne sont même pas propriétaires du terrain en dessous de leur maison. Ils ne pouvaient même pas avoir d'enfants, on leur enlevait. C'est épouvantable. Et la solution, elle n'est pas dans l'entretien de gens à rien faire. Évidemment, il faut aider les gens qui n'ont pas de travail et il ne faut pas les laisser mourir de faim, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour donner aux Autochtones les moyens de devenir autonomes, d'exister et d'être fiers, puis signer le monde à leur manière, avec les erreurs et les succès qui seront les leurs. mais à leur manière. Il ne faut pas donner du poisson, il faut donner les moyens de pêcher. Il y a très certainement une ouverture qu'il n'y avait pas. Il y a aussi une prise de la parole des Autochtones. Il y a aussi l'émergence de leaders, l'émergence d'intellectuels. Il y a maintenant des professeurs. Il y a une belle avancée actuellement.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pintéus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.